comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Noël Balin, donc, qui publie un ouvrage sur Django Reinhardt, le génie vagabond aux éditions du Rocher. Alors bien sûr, Django Reinhardt nous a quittés depuis très longtemps, mais il est toujours aussi présent dans la mémoire collective.
Bah écoutez, il nous a quittés en 53 et il est clair que quand on est français, on n'échappe pas à Django Reinhardt. Il représente un des grands monuments de la musique nationale, dans le sens où il a été le précurseur, l'innovateur et le grand ambassadeur d'une musique que l'on n'a pu faire qu'en France. C'est-à-dire le jazz manouche mélangé au jazz et dans une formule orchestrale classique avec des cordes.
Alors son histoire, ses débuts finalement.
Alors ses débuts, il commence tout jeune à jouer de la guitare banjo à la terrasse des cafés. Vous parlez de ses débuts, c'est très complexe parce qu'il a été tout de suite repéré par les grands accordéonistes de son époque. Il faisait des thés dansants, enfin voilà, il apprend sur le tas et il est issu d'une communauté manouche où la musique faisait partie de la vie. Et puis il traverse une période très très douloureuse à la suite d'un incendie accidentel. Il est brûlé tout le côté gauche du corps, mais il se retrouve avec la main complètement atrophiée, il ne lui reste que deux doigts valides. Et les vrais débuts, c'est quand son frère lui apporte une guitare sur son lit d'hôpital et qu'il apprend la guitare seul avec deux doigts et qu'il devient en l'espace d'un an de souffrance le virtuose de son instrument.
Alors il y a bien sûr toutes les rencontres qu'il a pu faire. On peut bien sûr ne pas citer Stéphane Grappelli.
C'est impossible. Stéphane Grappelli, c'est le frère qui n'est pas issu de la communauté. Ils ont des origines très très différentes, mais il n'empêche qu'ils se sont trouvés au bon moment. Ils ont produit ensemble une musique dont ils se doutaient tout de même qu'elle était importante, sans savoir quand même qu'elle avait ce parfum d'éternité. Et surtout qu'elle allait inonder la planète au point de faire l'admiration de musiciens tels que Duke Ellington, Louis Armstrong. C'est-à-dire que partout où l'on circule avant-guerre, dans l'entre-deux-guerres, 30-40, on se retrouve avec des communautés musicales qui connaissent la musique de Grappelli et Django Reinhardt.
Alors qu'est-ce que lui pensait de tout cela ?
Tout cela, pour lui, vous savez, c'est un personnage très très complexe. Quand on travaille sur lui, chaque jour, on découvre quelque chose de mystérieux. Il ne donne pas tout à voir, à entendre, il est mystérieux, il est discret, il est taiseux. Et il est en même temps timide, humble et en même temps très orgueilleux. Donc il est ambivalent. Lui, ce qu'il pensait, c'est qu'il savait très bien qu'il était le meilleur musicien de sa génération parce que tout le monde lui disait, et de toute façon, il n'y avait pas match. Quand il arrivait, il écrasait. Sauf qu'il avait toujours le souci d'écouter les autres et il n'a jamais voulu être un despote. Il était un monarque éclairé.
Alors il n'empêche qu'il a malheureusement aussi connu, comme beaucoup, une traversée du désert.
Traversée du désert assez relative, après-guerre, il vit une déception quand il va aux États-Unis
avec
Duke Ellington. C'est-à-dire qu'il est accueilli de façon extrêmement normale, mais il croyait que ce serait beaucoup plus, pharaonique. Alors il se trouve qu'il débarque sans valise, sans guitare, les mains dans les poches, toujours aussi nonchalant. Et la tournée américaine est un petit peu décevante. Quand il rentre en France, il a une légère traversée du désert, mais c'est aussi dû de son fait. Il préfère parfois jouer au billard, jouer à la pétanque, aller pêcher, voilà.
Est-ce que ça veut dire que, justement, on parlait de nonchalance, est-ce qu'à un moment, il a senti qu'il voilà, voulait passer peut-être à autre chose, il était un peu blasé ?
Non, il était un peu fatigué, certes, mais surtout, il était très intrigué par le bebop, la musique électrique. Et quand il meurt, à 43 ans, d'une attaque cérébrale, il est à Samoa, dans sa retraite, comme ça, en banlieue sud de Paris, à la campagne, il est bien. Il a quand même fait des disques majeurs à la guitare électrique, avec la nouvelle génération, il joue du bebop, et là, on se dit, il avait tout compris et il était reparti pour une autre carrière exceptionnelle. Parce que quand vous écoutez ces disques aujourd'hui, ils sont même pas datés. Alors que ceux des années 30 le sont, ceux-là sont d'une modernité effarante.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut écouter pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas ou mal ?
Alors il faut écouter la grande période juste avant-guerre avec Grappelli. Il faut écouter également son travail intéressant avec Hubert Rostin, la clarinette. Et puis toute la période des années 5, début 50, où il enregistre vraiment des pièces modernes. Je vous dirais aussi qu'il faut écouter ce qu'il fait derrière Charles Trenet, derrière Jean Sablon, parce que quand il accompagne ces deux grands chanteurs, il a des traits complètement fulgurants qui donnent à penser que ces chanteurs ont su s'entourer d'un type exceptionnel qui a finalement rehaussé encore le niveau.
Alors c'est toujours difficile à dire, mais aujourd'hui, quelle place a Django Reinhardt dans le panthéon de la musique jazz?
Alors, de source sûre, pour avoir, parce que je travaille énormément sur d'autres musiques que la sienne, et je croise des musiciens comme John McLaughlin, Pat Metheny, enfin les grandes icônes de la guitare, et tous ont en référence de façon spontanée, sans que j'aie à poser la question, Django Reinhardt. Mais également des musiciens de hard rock, et puis des musiciens qui jouent du classique. C'est très curieux parce que il est la référence dans ce sens où on ne comprend pas encore comment il faisait. Donc il y a des études, des exégètes qui se penchent sur son œuvre. Pour les jeunes qui commencent 15-20 ans, eh bien c'est le but à atteindre, cette sorte de virtuosité qui n'oublie jamais d'être élégante. Et puis quand on est un vieux briscard et un vieux routier de la guitare, on s'aperçoit qu'on n'a jamais fini d'apprendre de lui.
Django Reinhardt, le génie vagabond, c'est signé Noël Balin et c'est publié aux éditions du Rocher. Merci à vous.
Merci à vous.